France Inter, le 7-10.
Alexandra Ben Saïd, votre invitée ce matin, est un écrivain, essayiste et philosophe.
Bonjour Pascal Bruckner.
Bonjour Alexandra.
Je souffre donc, je suis portrait de la victime en héros. C'est donc votre nouvel essai publié chez Grasset. Au cœur de votre réflexion, il y a donc le statut de victime. Reconnaître les victimes, écrivez-vous, c'est l'apanage de la civilisation. Mais alors, vous ne comptez pas vos coups lorsqu'il s'agit de ceux que vous appelez les imposteurs victimaires. Pascal Bruckner, qui sont ces imposteurs? Qui sont-ils et quelles sont leurs raisons?
Alors, je vais reprendre ce que vous venez de dire. Effectivement, c'est la grandeur de la culture, c'est d'aider les plus faibles, les opprimés, les malades. Et ça, c'est une valeur sur laquelle on ne peut pas revenir. Mais sur cette conquête qui a été portée essentiellement par le christianisme, s'est greffée toute une stratégie de victimisation, surtout depuis la Seconde Guerre mondiale, depuis que au personnage du résistant s'est substitué le personnage du déporté, avec toute l'aura qu'il charrie avec lui. Et cette stratégie de victimisation consiste à s'accaparer la grandeur ou la noblesse de la victime sans avoir véritablement souffert soi-même.
Mais on y gagne quoi ?
Alors on y gagne. Alors c'est là, si vous voulez, que il s'est passé quelque chose depuis 1945. Il y a aujourd'hui une désirabilité de l'état de victime qui est stupéfiante, parce qu'on devrait au contraire estimer qu'être une victime est une condition difficile. Il y a une désirabilité parce que si vous pouvez dire que vous êtes victime d'une personne, d'un milieu, d'un gouvernement, vous accédez à une sorte d'aristocratie qui n'est pas l'aristocratie de la naissance, mais l'aristocratie de l'événement. Vous avez tous les droits, vous êtes libéré de la plupart des obligations qui sont celles des êtres humains, des citoyens ordinaires, et vous arrivez, c'est une sorte de sainte famille des victimes qui parfois se transmet de père en fils. Il y a une transmission héréditaire du statut de victime, alors, et une transmission héréditaire du statut de bourreau. Et on voit ça sur le plan géopolitique aussi international, où Vladimir Poutine, par exemple, accuse les Ukrainiens d'être des nazis, comme s'ils devaient payer pour les fautes de certains de leurs pères.
Et c'est de droite ou c'est de gauche, la victimisation?
Ah, c'est totalement transversal, c'est transpartisan. Je cite par exemple dans l'imposture victimaire, c'est Donald Trump que ses partisans comparent à Jésus-Christ, et lui-même s'est assimilé à Navalny. C'est Marine Le Pen expliquant que si Aya Nakamura ouvrait les Jeux Olympiques, les Français se sentiraient humiliés, donc elle victimise la France. C'est Zemmour expliquant que le fait divers sordide d'une petite fille de 12 ans tuée par une femme algérienne est la marque d'un francocide, comme si donc on voulait éliminer toute la France. C'est une exagération sémantique, mais qui est devenu un trait commun à tous les camps politiques et même à chacun d'entre nous.
Et à chacun d'entre nous.
Oui, je pense que spontanément dans la démocratie, comme la démocratie est fondée sur l'insatisfaction vis-à-vis de son propre sort, on nous promet tellement et on tient si peu. Et donc nous sommes tentés, sur le plan personnel, de dire mon tracas, au fond, c'est une tragédie dont personne ne tient compte, et j'ai le droit de me plaindre, et j'ai le droit de protester violemment contre le sort qui m'est fait.
Pascal Bruckner, dans le grand sac, quand même, vous mettez donc beaucoup de monde, il y a la prix Nobel de littérature Annie Ernaux, qui est en lutte contre le déterminisme social, qui revendique vouloir venger sa race. Elle, vous lui déniez le droit à la parole en tant que victime.
Ah mais non, d'abord, je ne pense pas que ce soit une victime. Je pense qu'au contraire, elle est. Ce qui est très curieux chez elle, c'est que maintenant elle est multimillionnaire. D'abord, c'est une très bonne romancière. J'ai lu presque tous ses livres, et donc j'étais content pour elle. Mais je dois dire qu'elle vit ce privilège du Nobel, qui est le rêve d'à peu près tous les écrivains, comme une malédiction, comme si c'était un clou supplémentaire sur sa condition. Faut pas pousser quand même.
Mais elle peut pas être. Il y a quand même un déterminisme. On sait bien que si on a une adresse, un nom, on va pas monter, l'ascenseur social sera en panne. Elle n'a pas le droit d'être porte-parole de ces gens-là.
Je pense pas qu'elle en soit le porte-parole. Je pense qu'il y a d'autres gens qui sont plus habilités. Et voilà. Mais enfin, je ne veux pas m'attarder. Alors, simplement, elle fait partie de la comédie sociale. Il y a toujours eu ça. Vous lisez la littérature française depuis Les Caractères de la Bruyère. Vous verrez qu'il y a toujours des grands ou des puissants qui jouent les humbles, les modestes et les opprimés.
Pour vous, pas question non plus de faire de Greta Thunberg une héroïne de l'éveil des consciences sur l'urgence climatique. Vous tapez fort sur Greta, hein, encore. Ce matin, On attend, Yael Gauze en a parlé, 3 décisions de la Cour européenne des droits de l'homme sur l'inaction des États, et ça c'est inédit. Vous en pensez quoi, vous, de ces citoyens qui se disent victimes de la léthargie des États et qui les mettent devant la justice ?
Non mais ça c'est parfaitement légitime, puisque nous sommes tous victimes du réchauffement climatique. La question que je pose dans ce livre, elle est très simple, c'est est-ce que nous sommes armés psychologiquement et politiquement pour affronter les défis. Il y a les défis du climat, il y a la guerre en Ukraine, il y a le terrorisme islamiste, il y a la violence et la criminalité des narcotrafiquants. Et je dis simplement que je préfère, pour ma part, la figure de Rosa Parks, vous savez, au moment
qui refuse de céder sa place dans un bus.
Dans un bus au moment de la ségrégation aux États-Unis, à celle de Greta Thunberg, qui d'ailleurs a été très critiquée par ses propres partisans depuis qu'elle a embrassé la cause du Hamas, en tout cas la cause palestinienne.
Et vous pensez que la jeunesse, elle est trop cajolée en fait, hein, trop susceptible. Vous avez l'impression que vous dites qui enseignera aux jeunes générations le courage d'endurer, mais vous n'avez pas l'impression qu'ils endurent justement les jeunes, ils endurent les catastrophes climatiques, la guerre.
Voilà, justement, mais je pense que c'est pas la jeunesse. Tout a commencé avec ma génération, de l'après-guerre. Alors que nos parents et nos grands-parents avaient connu des vies assez difficiles, nous avons bénéficié de la société de consommation, du confort. Et cet égoïsme d'enfants gâtés, qui est la marque des pays riches. Vous savez, quand les migrants viennent en France, ils ne comprennent pas qu'on se plaigne. Ils ne comprennent pas pourquoi nous ne cessons de râler, alors que pour eux, la France et les pays européens sont des paradis.
Donc parce qu'il y a plus malheureux que nous, nous, lorsque nous sommes victimes, lorsque certains sont victimes, nous devrions pardonner,
oublier. Nous devrions pondérer nos critiques. Et je pense qu'effectivement, la comparaison est toujours bonne. Et nous devrions considérer que nous sommes quand même, malgré tout, des privilégiés. Vous voyez, ce qu'on peut reprocher à un certain nombre de mouvements politiques, c'est leur nombrilisme. Sur la situation des femmes, par exemple, on ne voit pas le sort des Afghanes, des Iraniennes, des Yazidis, des Kurdes qui ont été emmenés en esclavage par Daesh. On a refusé aux femmes israéliennes de manifester le 8 mars dans la rue. On les a jetées en les traitant de sionistes et de fascistes.
Mais lorsque ce matin, Pascal Bruckner, lorsque ce matin, il y a 10 femmes là qui se plaignent du réalisateur Philippe Lioré, lorsqu'elles prennent la parole, elles disent qu'elles ont été victimes. Elles ont raison ou elles devraient se taire ?
Ah non, elles ont raison de se protester, mais... il faut toujours vérifier les accusations. C'est-à-dire que moi, c'est en deux temps. Victime, on vous croit, mais on vérifie ce que vous dites et on donne aussi la parole aux accusés, parce qu'il ne faut pas que le tribunal médiatique se substitue au travail de la justice et notamment à la présomption d'innocence. Ça me paraît... Sinon, n'importe lequel d'entre nous peut demain subir les foudres d'une personne qui le déteste et être mis au pilori.
Dernière question, parce que vraiment celle-là, elle me paraît importante. Vous dédicacez ce livre à plusieurs personnes, et notamment à votre éditeur, chez Grasset. Pour Olivier Nora, qui a tenu bon, vous aimez bien les gens qui relèvent la tête et qui tiennent bon, il a tenu bon face à quoi, Olivier Nora ?
Face aux menaces de ceux qui voulaient sa peau à l'intérieur du groupe Bolloré.
On les nomme ?
Comment ?
Vous les nommez ?
Tout le monde les reconnaîtra. Oui, enfin, je crois que c'est surtout Nicolas Sarkozy qui voulait sa peau. Et Arnaud Lagardère est venu chez Grasset et a dit à Olivier Nora, vous êtes la meilleure maison d'édition, vous êtes le meilleur éditeur de Paris, ce qui est vrai. Et Sarkozy a eu l'élégance de reconnaître sa défaite. Donc, vous voyez, Nora a effectivement résisté aux pressions de ceux qui voulaient qu'il démissionne. Et il a eu raison.
Pascal Bruckner, une parole libérée, essayiste et écrivain,
merci,
auteur de
Alexandra.
Je souffre donc je suis, portrait de la victime en héros, c'est chez Grasset et c'est publié le 13 avril en librairie. Merci d'avoir accepté notre invitation.